Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble Juges chapitre 6. On va lire ensemble ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Juges. I can't translate everything, but if you want to read Judges chapter 6, you will be with us. Judges. Donc on a cette famille allemande qui est en vacances ici. Donc voilà, le Seigneur les bénisse au milieu de nous. On va lire donc Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine avec un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On va s'arrêter ici. J'aimerais juste m'incliner dans la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence, ta fidélité. Seigneur, et parce que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, parce que tu habites dans nos cœurs et tu nous conduis. Et Seigneur, je te demande que tu bénisses dans ta grâce ces instants. Seigneur, que tu nous aides à nous reposer sur toi, à nous décharger sur toi et à être dans la paix, le calme et le repos. Seigneur, bénis ta parole, bénis la communion et bénis tout ce qui sera dit. Que tu sois avec moi, avec nous, nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, cette histoire de l'appel de Gédéon se situe dans la période qui suit la conquête du pays de Canaan. On se souvient, Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé le désert, ils ont reçu la loi de Moïse, et puis après ils sont entrés en Canaan avec Josué qui les a conduits. Et là ici, eh bien, Josué est mort et on rentre dans la période des juges. Alors, ils ont reçu la loi de Dieu. Ils devaient obéir à la loi de Dieu. Et une fois eh bien, que Josué est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont mis à désobéir. Ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Ils se sont tournés vers les idoles. Et on est rentré dans un cycle qui a duré à peu près environ 450 ans. C'est ce que dit le livre des Actes. Pendant 450 ans, eh bien, il y avait un cycle de désobéissance, jugement, repentance. Dieu envoyait un juge, restauration. Et là, eh bien, de nouveau, Israël allait bien pendant toute la vie du juge. Et puis le juge décédé, et on rentrait de nouveau dans le même cycle. Désobéissance, jugement, et etc. Repentance, restauration par un juge. Alors, on vient de lire ce chapitre 6 qui commence avec ces mots. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Désobéissance, jugement. Et là, on voit, ça a été vraiment très, très difficile pour Israël. Il est dit que la main de Madian était puissante contre eux. Le nombre des gens qui venaient occuper leur pays et les dépouiller était innombrable, comme des sauterelles. Autrement dit, impossible d'y échapper. Impossible. Et c'est vrai que eh bien, quand Dieu permet un jugement, eh bien, on ne peut pas fuir. Et Israël ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas passer outre. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est ? Repentance. Ça y est, ils prennent conscience, mais on a besoin de toi Seigneur, on s'est éloigné. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, ils crient à l'Éternel. Alors Dieu va leur envoyer un prophète, au verset 8, 9, 10, pour leur rappeler tout ce qu'il a fait pour eux. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour eux ? Pour eux, Dieu va leur dire, « Je vous ai fait monter d'Égypte. » Souvenez-vous, je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. » Et là, il va parler de Canaan. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc là, c'était tous les bienfaits de l'Éternel qui étaient juste derrière eux. En fait, les générations passées pouvaient en parler, expliquer, mais tout ce que Dieu a fait pour nous, et donc c'était présent pour eux. C'est un petit peu comme un adolescent, vous savez, dont les parents vont tout faire pour lui pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils vont tout donner pour lui et puis il devient ingrat, désobéissant. Il rejette tout le bien que les parents lui ont fait. Ça arrive hein, souvent. Ben, Israël, c'était un peu ça. Dieu leur a fait du bien, il les a couverts, il les a choyés, Il a dit « Je suis avec vous ». Et puis, ils ont tout rejeté et sont partis dans la désobéissance. Dieu dit « Vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point obéi. » Et c'est un rappel. Dieu est un pédagogue qui nous enseigne. Et quand il devient nécessaire de nous châtier, ben, il donne une explication claire. Il explique. Et ça devrait aussi être la même chose pour nous. Je parle dans l'éducation des enfants. Eh bien, quand il y a punition, eh bien, il y a une explication. Pourquoi ? On explique clairement, Dieu le fait. Et puis aussi, c'est bon, Dieu le fait. Rappelez, hein, mais regarde un petit peu tout ce que je fais pour toi, tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais. C'est bon d'expliquer pourquoi les choses arrivent. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et après avoir expliqué la raison de son jugement, Dieu envoie, il prépare la délivrance, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc le titre de mon message ce matin, c'est un héros qui s'ignorait. Un héros qui s'ignorait. Et Gédéon était un héros qui s'ignorait. Il n'en avait pas conscience. Un héros, qu'est-ce que c'est ? Un héros, c'est quelqu'un qui va sortir un peu du lot, il va se faire remarquer en apportant quelque chose aux autres. Alors ça va être la délivrance, ça va être le salut, ça va être la bénédiction, il va apporter quelque chose. Il est un homme qui se lève, il n'a rien de spécial. Et d'ailleurs, quand vous regardez Gédéon, on ne parle pas de lui ailleurs. Hein, il est très commun. Et même si cet épisode ne nous avait pas été relaté, si l'ange de l'Éternel n'était pas apparu à Gédéon, on n'aurait jamais rien su de Gédéon. Il serait resté dans l'anonymat. Mais il lui a été dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant héros. Et ce matin, je vous dis que l'Éternel est avec vous, vous êtes un vaillant héros. Un vaillant héros. Alors vous dites peut-être, qui moi ? Non, je ne vois pas vraiment en quoi je suis un héros. Hein. Qui je suis ? Je suis quelqu'un de banal, qui vit dans une vie banale, au milieu de ce monde, qui m'assied à l'assemblée le dimanche, et puis de manière discrète. Remarquez la réponse de Gédéon. Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et on voit que Gédéon ne relève pas cette mention de vaillant héros. Ce qu'il entend, c'est « L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. » Et là, il est troublé. En fait, il vient de subir l'oppression de Madian et ça a dû bien tourner dans son cœur, dans sa tête. Hein, ça l'a fait réfléchir et Gédéon s'est senti seul. Et il se dit « Mais Israël est seul, on est seul. » Et c'est vrai que il venait de vivre un jugement de Dieu. Hein, donc, c'était pas facile. Hein. Et Gédéon entendait les anciens d'Israël, les Juifs, peut-être il entendait même son propre père, qui disait « Mais vous savez, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte ?» Donc il y avait quand même un semblant de foi ici, il y avait quelque chose, il y avait un reste, on se souvenait. Mais quand même, l'Éternel est l'Éternel, quoi. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il y avait ça. Certains se souvenaient que Dieu est le Dieu qui délivre, qu'il en a la puissance, qu'il peut le faire. Mais Gédéon, il se dit, je le vois pas, j'ai pas la foi là. Et tout ce qu'il pense, c'est que l'Éternel nous abandonne, l'Éternel nous livre. Et Dieu lui répond, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il lui dit en quelque sorte, sois ce héros qui délivrera Israël. Vas-y, sois ce héros. Et Dieu appelle Gédéon à le servir, à entrer dans ce que Dieu lui a réservé, à devenir un héros qui apporte quelque chose pour les autres. Et Gédéon, c'était un spectateur. Il était spectateur jusqu'à présent, craintif vis-à-vis de Madian. Et Dieu l'invite à devenir acteur du destin d'Israël. Il invite à prendre part et à servir Israël. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin à nous-mêmes, à notre vie, à notre part et à notre service même dans l'Église de Jésus-Christ pour notre Seigneur, ou à notre service même pour le Seigneur, mais autour de nous, dans le monde. Réfléchissons à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des acteurs dans le plan de Dieu ? Ou bien est-ce que nous sommes simplement des spectateurs dans le plan de Dieu ? Vous savez la différence entre un acteur, bien sûr, et un spectateur. Le spectateur, il attend tout, hein. Il attend. Et il ne fait rien, ou presque rien. Tandis que l'acteur, lui, il travaille, il s'investit, il donne de son temps, il donne de son énergie, il ose, il avance. Il y a un appel, il avance, il agit, il est actif. Le spectateur, lui, il est passif, il reçoit. D'ailleurs, il n'est pas préparé à autre chose que ça. Il vient pour recevoir. Si par exemple, vous êtes au théâtre et vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre et un des acteurs vous invite à monter sur scène et à jouer une pièce de l'acte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, mais non, je ne sais pas, moi, je ne suis pas préparé pour ça, je ne sais rien de la pièce, je ne sais pas quoi dire. Et c'est normal, c'est normal. Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Et j'aimerais qu'on se rappelle ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens 2, 8 et 9. On va quitter un petit peu les juges, on y reviendra après, vous pouvez garder votre main dans juge. Éphésiens 2 et versets 8 et 9. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors d'abord, la chose, elle est clairement établie. C'est par la grâce, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas de nos œuvres, ça ne vient pas de nos mérites. On ne peut rien faire pour se sauver soi-même, rien. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est tout. Donc, on ne peut pas ajouter des œuvres, donner des œuvres en disant « je vais plaire à Dieu par mes œuvres ». Dieu dit non, viens par la foi, crois en Jésus-Christ crucifié pour moi. Mais au verset 10, il poursuit, il dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ». Et donc le salut n'est pas par les œuvres, c'est clair, mais une fois qu'on est sauvé, eh bien Dieu nous appelle à des bonnes œuvres. Il nous appelle cette fois à agir. Et il a préparé des œuvres spéciales, spécifiques, du sur-mesure. C'est pour nous, rien que pour nous. Bien sûr, Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre. Hein. Si on ne le fait pas, Dieu se servira aussi de quelqu'un d'autre. Mais c'est pour nous. Il a préparé des œuvres pour nous, afin qu'on les pratique. Dieu nous appelle à devenir des acteurs. On agit, on fait quelque chose. Alors, est-ce qu'on est des acteurs, des œuvres préparées d'avance? Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi, finalement? Alors, on ne peut pas lire tout le Nouveau Testament et toutes les Épîtres pour vous dire ce que Dieu attend de vous. Si vous lisez les Épîtres, eh bien vous allez voir ce que Dieu attend de vous. Mais on peut prendre quelques versets. Regardez Éphésiens 5, versets 19 et 20, par exemple. Éphésiens 5, versets 19 et 20. Il est dit ici, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le fait de chanter ensemble, de s'encourager ensemble par des chants, de choisir un chant, de célébrer les louanges du Seigneur ensemble, eh bien c'est une œuvre. On est en train de faire une œuvre belle pour le Seigneur. Mais aussi, il parle de rendre grâce à Dieu le Père. On voit dans le livre des Actes, quand vous lisez le livre des Actes, ils s'arrêtaient, ils chantaient des cantiques ensemble. Ils rendaient grâce, hein, ils priaient ensemble. On voit ça tout le long du livre des Actes. Dieu peut vous inspirer. Il peut vous mettre un cantique sur le cœur qui va faire du bien à quelqu'un qui va l'écouter. Ça va être exactement ce que la personne a besoin d'entendre. Dieu peut mettre sur votre cœur une prière où vous louez le Seigneur et ça nous rapproche de Dieu. Parce que c'est ça, quand quelqu'un est proche de Dieu, vous montez avec lui dans le ciel. Et ça vous fait du bien. Oh Seigneur, oui. Amen. C'est ce que j'aurais dit. Et amen. Parce que ben, on se rapproche de Dieu. Et c'est aussi pour vous, pour chacun d'entre nous. Peut-être vous vous dites, non, je vois pas, moi, je ne peux pas y arriver quand même. Mais non, c'est aussi pour vous. Est-ce que vous avez déjà songé à prier, à louer Dieu quand l'occasion vous est donnée? Ou à chanter un cantique, à proposer un cantique? Certains diront, ah, moi c'est impossible, je ne peux pas prier en public. Impossible, non, hors de question. Et c'est là où Dieu dit, va avec cette force que tu as. Va, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai dit, entretenez-vous par des cantiques? Rendez grâce au Père en toutes choses. Colossiens 3:16. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. On s'exhorte, on s'instruit, on se fait du bien par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et de même, quand on est ensemble, eh bien, on peut partager quelque chose qui va faire du bien aux autres. On s'édifie les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5 et verset 11. Ici, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Un autre verset, cette fois dans l'Ancien Testament, psaume 66, verset 16. C'était ce qui était affiché durant le culte. Psaume 66, verset 16. Il est dit, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Dieu nous voilà, d'une part, dit que nous devons nous exhorter mutuellement, réciproquement, nous édifier les uns les autres. Et on le fait quand on partage ce que Dieu nous a dit. Quand vous lisez et puis vous soulignez un verset, ça vous a fait du bien. Ben c'est quelque chose que vous pouvez partager. C'est un bienfait de l'Éternel qui peut être partagé. Et si ça vous a fait du bien, ça peut faire du bien à des frères et sœurs. Et le fait de le partager, eh ben, c'est la bénédiction qui se répand. C'est la parole de l'Éternel que vous avez reçue qui part faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est toute la différence entre la mer de Galilée et la mer morte. La mer de Galilée, elle reçoit les sources. Et elle les rend, elle les redonne. Ça traverse le lac de Galilée et puis ça continue par le Jourdain. La mer morte, elle reçoit et puis ça s'éteint en elle. Et quand vous recevez quelque chose, ben voilà, ça peut venir s'éteindre en vous et ça ne sera que pour vous. Point. Ou vous recevez, vous êtes béni, oh, et vous le redonnez. Et ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est toute la différence. Il dit, le psalmiste dit, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Je dirai ce qu'il a fait à mon âme. Parce que ben, c'est une louange pour mon Dieu. Ah non, mais moi je suis timide quand même. J'ose pas, je vais pas y arriver. Je pourrai jamais dire ce que Dieu a fait à mon âme. Exhorter, ben, vous y pensez même pas quoi. Vous y pensez même pas. Et Dieu dit, va. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Aussi, il est possible que Dieu puisse nous utiliser, par exemple, pour enseigner les enfants. On a fait un appel récemment pour l'idée d'enseigner les enfants. Pourquoi pas? Il y a un appel possible pour aller eh bien, partager les vérités bibliques aux enfants. Il est dit dans les Proverbes, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, il y a une importance de planter les bonnes choses dans l'âme d'un enfant. Et c'est une bénédiction de pouvoir eh bien, apporter quelque chose et influer influencer un enfant. C'est formidable. Impossible, on se dit. Et Dieu dit, mais pourquoi pas? Va. Est-ce que ce n'est pas un appel aussi? Va avec cette force que tu as. On peut avoir exactement la même réaction quand on est invité à témoigner de Jésus-Christ. Parler de Jésus, expliquer l'Évangile. On se dit, oh là là, non, d'autres le font mieux que moi. Moi, si je le fais, ça ne va pas être terrible. Je suis embarrassé, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas quoi dire. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 10 et versets 14 et 15. 1 Corinthiens 10 et versets 14 et 15. Non, je me suis complètement trompé. C'est Romains. Romains 10. Et versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ?» Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent Jésus-Christ ? Et par ces paroles, eh bien c'est un appel qui nous est lancé. Comment en entendront-ils parler si on ne prêche pas l'Évangile ? Et Dieu peut faire de nous et de moi un prédicateur de la bonne nouvelle. Et on se dit, impossible. Mais va avec cette force que tu as. Dieu a dit, allez. Il a dit ça à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand il y a quelque chose qui est devant nous et que nous n'avons jamais fait, on peut avoir tendance à dire, je ne sais pas, je suis incapable. Donc, je n'ai pas la force. Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir une force extraordinaire et divine d'un seul coup pour pouvoir faire la chose. Il nous dit, va avec la force que tu as. Mais elle est faible, elle est rien. Mais va avec cette force-là. Vas-y, avance-toi avec le peu que tu as. C'est tout ce que Dieu demande. Simplement, notre force, aussi faible puisse-t-elle être. Et parfois, on est comme Gédéon, on a des arguments. Alors Gédéon, qu'est-ce qu'il va dire ? Juges 6 et verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » C'est des arguments sérieux. « Je suis insignifiant. » Pauvre, voilà, je ne fais pas partie d'une famille royale. Et même dans ma famille spirituelle, je suis le plus petit. Je suis insignifiant. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Voilà, je suis insignifiant, le plus petit dans la famille, ma famille. Et Dieu me dit, tu es un vaillant héros, tu es capable. Et je me regarde et je dis, ben non, j'y crois pas. Si je prie en public, je vais probablement bafouiller, je vais me tromper, je vais pas savoir faire. Si je partage quelque chose, je vais peut-être dire une bêtise. Si je me porte volontaire pour quelque chose de plus grand, ben n'y pensez même pas. Et partager ma foi, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Quelle va être la réaction? Et Dieu dit simplement, va. Verset 16, Gédéon, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Tu battras Madian comme un seul homme. Ils étaient une multitude innombrable. Et il dit, « Mais quand je serai avec toi, ça sera comme un seul homme. Tu n'auras plus une multitude devant toi. Ça va être facile. Ça va être facile. » C'est une promesse, « Je serai avec toi. » Et souvent, pour faire une chose, on a besoin de savoir qu'une seule chose, c'est que Dieu est avec nous. L'Éternel est avec toi. Qu'importe si je me sens faible, qu'importe si je ne me sens pas capable, Dieu est capable. Et donc, avec lui, je franchis des montagnes. Un jour, Dieu a dit à un jeune homme, « Qui enverrai-je ? » Et le jeune Ésaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Il était faible, hein ?« Me voici, envoie-moi. » Est-ce qu'on fait ce que Dieu attend de nous ? Verset 17. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Puis verset 18. « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Alors peut-être Gédéon, là, il commence à percevoir que cet homme, c'est peut-être vraiment un envoyé de l'Éternel. Il y a quelque chose ici, parce que bien que ce soit l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que voit Gédéon ? En fait, il voit un homme devant lui. Il ne voit pas un ange avec des ailes, il voit un homme. Mais là, il commence à percevoir que c'est un prophète. Qui est cet homme ? Un envoyé de Dieu ? Alors Gédéon veut lui faire une offrande, un cadeau. Alors c'était bien sûr une pratique très commune en Orient de bien accueillir quelqu'un qui arrivait, un hôte. Et le mot offrande ici, c'est le mot offrande dans les offrandes de l'Éternel, mais c'est aussi le mot offrande quand on veut faire un présent à quelqu'un qui rentre chez soi. Et ici, il lui demande un signe. Quel est le signe ? Il dit « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne et que j'apporte mon offrande. » Alors, quelle est l'offrande ? L'offrande, eh bien, c'est un chevreau apprêté et des pains sans levain. Imaginez un chevreau apprêté. Vous allez au troupeau, prenez un chevreau et vous l'apprêtez. Est-ce que ça se fait en 10 minutes ? Et il est parti pour combien de temps ? Je me suis toujours posé la question, mais c'est quelque chose, hein ? Prendre un chevreau, voilà, le tuer, le préparer, une heure, deux heures, je ne sais pas, plus les pains sans levain. Enfin, c'était quelque chose qui était long. Et Gédéon se dit, si cet homme vient de l'Éternel avec ce message pour moi, alors il va être patient. Il sera patient. Et Dieu est patient. Dieu est patient. Il est patient avec nous. Il ne nous demande pas l'impossible le lendemain de la conversion. Non. Il est très patient avec nous. Dieu sait attendre. Et toutes choses se font avec du temps. Petit à petit, avec un travail dans notre cœur. Et donc, on n'est pas pressé de faire les choses vite, 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 vite. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu peut attendre. Et il attend avec nous. Et dans cette attente, eh ben, c'est l'occasion aussi de se révéler davantage à nous. Dieu parfois nous laisse attendre. Enfin, il prend patience vis-à-vis de nous et il se révèle davantage et davantage à nous. Et donc Gédéon va préparer son offrande et lorsqu'il revient, versets 20 à 21, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, il lui montre un rocher qui était là, et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon aurait pu s'asseoir et partager ce chevreau avec les pains sans levain, un peu comme Abraham a fait. Vous savez, il y a trois hommes qui sont arrivés, et il a dit, restez ici, et puis il a demandé, il me semble, à Sarah de préparer, et puis après, voilà, ils se sont assis, ils ont mangé ensemble. Mais ici, c'est l'ange de l'Éternel qui lui dit ce qu'il faut faire. Pose-les sur ce rocher, répand le jus, et là, l'ange de l'Éternel avance l'extrémité de son bâton, et un feu commence à tout consumer. Versets 22 et 23, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et si Gédéon avait vu jusqu'à présent un envoyé de Dieu, un prophète sûrement qui parlait de la part de Dieu, ici, après le miracle de l'offrande qui se consume dans un feu, Gédéon prend conscience et se dit, en fait, c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. C'est pas simplement un ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, les croyants étaient parfois devant ou se retrouvaient confrontés ou dans une situation avec l'ange de l'Éternel, et c'était ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu qui était visible, comme ici au travers de cet homme. Et on voit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Chaque fois que vous lisez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. À chaque fois. Pour s'en convaincre, il faut juste tourner quelques pages du livre des Juges et de regarder le chapitre 13, versets 19 à 22. Ici, c'est Manoac. Manoac, c'est le père de Samson. Et lui aussi, il va voir l'ange de l'Éternel avec son épouse. Et l'ange va lui dire d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Regardez Juges 13, 19 à 22. Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme: « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Aucun doute pour eux. Ils se disent: « Mais nous avons vu Dieu. » L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Dieu, ils l'ont vu face à face. Vous avez peut-être aussi remarqué dans le texte que nous avons lu de Juges chapitre 6, il est dit « L'Éternel lui dit ». C'est l'ange de l'Éternel, mais il est dit « L'Éternel lui dit ». Dieu lui dit. Donc l'ange de l'Éternel qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est lui qui parle. Et quand vous recoupez tous les textes bibliques, vous apercevez qu'en fait l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Sauf que, il n'était pas encore né de la Vierge, donc il n'était pas encore défini clairement comme étant Jésus. Mais il était là, puisque Christ existe de toute éternité. Et donc il apparaissait de ci, de là, dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël. Et c'est touchant de voir que le Seigneur va se révéler un peu plus à Gédéon. Oui, il dit à Gédéon: « Allez, vas-y, agis !» Mais ce n'est pas sans lui donner une meilleure connaissance de lui-même. Et Dieu s'approche de nous, il se révèle à nous. Et plus on grandit dans sa connaissance, plus on grandit, plus on devient aussi responsable et apte à nous avancer pour lui. Et c'est le privilège des enfants de Dieu, mieux connaître le Seigneur et le servir. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et là on voit Gédéon qui adore. Il adore Dieu sur un autel qu'il nomme Yahvé Shalom. Il y avait du trouble en Israël à cause de Madian. Mais Gédéon maintenant est en paix. Il est en paix, il a vu Dieu, il sait que Dieu est avec lui, Dieu est avec eux. Et Dieu lui a dit: sois en paix, ne crains point. Cette parole, elle revient souvent: sois en paix, ne crains point. C'est incroyable le nombre de fois où vous la trouvez dans l'Ancien Testament. Mais si cette parole est apaisante de fait, si elle calme, si elle rassure, ça ne veut pas dire « sois en paix, assieds-toi et ne fais rien dans l'église de Jésus-Christ ». Non, c'est « sois en paix et sers, agis, sers-moi ». C'est une parole d'encouragement pour l'action. Alors je termine avec le verset suivant que nous n'avons pas lu, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Et là, c'est le service, l'appel qui commençait pour Gédéon. L'Éternel l'avait attendu patiemment et maintenant il lui dit: « Voilà, avance-toi. » Et maintenant, c'est toi qui vas délivrer Israël de Madian. Et confiance, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Voilà, je m'arrête ici avec ces mots. Et voilà, quelle est la part? Est-ce que vous êtes spectateur tout le temps, ou vous avez une part, ou vous voulez prendre une part, et vous êtes prêt à servir, à parler, à chanter, à proposer, à exhorter? C'est l'appel que Dieu nous donne à chacun.